Vous êtes sur RTL.
Les résultats du Quinté Plus qui se courait à Deauville. Pour gagner, il fallait jouer le 9, l'As, le 12, le 3 et le 7. La météo, Valérie Quintin.
Bonsoir.
Peu d'évolution pour demain sur le front des températures, malgré des orages de plus en plus fréquents, Valérie.
Oui, des orages de chaleur précisément, qui ne vont pas du tout apporter de rafraîchissement dans un premier temps. Ce seront des orages dispersés un petit peu partout dans la matinée sur tout le territoire, sauf sur le nord-est et sur les régions bordant la Méditerranée, où d'ailleurs le soleil devrait tenir pratiquement toute la journée. Ailleurs, on aura aussi des éclaircies, mais quelques gros orages qui seront particulièrement costauds d'ailleurs en fin d'après-midi vers le Massif central, vers les Alpes ou encore vers les Pyrénées. Côté température, on reste en période de canicule. Ça va durer encore un petit moment. Température minimale, donc vers 7h du matin, 21 degrés à Clermont-Ferrand, 22 à Carpentras, 23 degrés à Cambrai, à Bordeaux, à Toulouse, 26 à Bastia et Paris demain matin. Température de l'après-midi, 26 degrés à Saint-Malo, donc ça baisse pas du tout. 28 à Montpellier, 30 à Marseille, 33 à Bordeaux et à Pontarlier, 34 degrés à Dijon, à Besançon, à Nantes, à Poitiers, 36 à Orléans, Beauvais, Limoges, 37 degrés à Lille et Nancy, 38 à Verdun et encore 39 degrés dans la capitale.
Oh là là, une période de canicule qui ne prendra pas fin avant jeudi.
Non, pas avant jeudi. On va garder des températures très élevées, même si on aura moins de soleil. Mardi et mercredi, des orages vont traverser le pays d'ouest en est. Alors à chaque fois, boostés par la chaleur, les orages pourront être localement assez forts avec de la grêle, des rafales de vent, surtout près des reliefs, mais on n'est pas à l'abri sur les autres régions. Les températures resteront très élevées sur ces deux jours avec 21 degrés de moyenne générale au petit matin, ce qui veut dire qu'aux alentours de minuit, les nuits précédentes, on sera toujours autour de 32 degrés. 35 à 36 degrés de moyenne dans la journée. À partir de jeudi, oui, cette fois, les températures vont baisser, ça se confirmera et on va le ressentir physiquement parce qu'on ne le sentira pas auparavant.
Ah, merci Valérie.
RTL Soir, Anaïs Bouton.
On a donc appris il y a quelques minutes que 8 personnes, dont 6 Français, auraient été tuées dans la zone de Kourée au Niger, Morad Djabari. Quelles sont les dernières informations?
Alors à ce stade, les circonstances sont encore floues. Pour l'instant, le Quai d'Orsay, par exemple, ne confirme pas, procède à des vérifications. Mais 8 personnes seraient mortes, 6 Français, accompagnés d'un guide touristique et d'un chauffeur nigérien. Le groupe aurait été attaqué par des hommes armés, venus à moto, à travers la brousse, et aurait attendu les 8 personnes ce matin vers 11h30 dans un parc touristique où des safaris sont organisés. Il abrite les derniers troupeaux de girafes de l'Afrique de l'Ouest. Il est situé dans la zone de Kourée. C'est à une heure environ de la capitale de Niamey. Il faut rappeler qu'une bonne partie du Niger est fortement déconseillée, classée rouge par le ministère des Affaires étrangères français, notamment tous les lieux publics, les lieux touristiques. Le ministère indique par exemple que la zone de Kourée, ce parc où se trouveraient les Français, est déconseillée sauf raison impérative à cause de la menace terroriste permanente du groupe djihadiste Boko Haram, très actif à travers tout le pays.
Merci beaucoup, Morad Djabari. Une première réaction de Frédéric Lejal. Il est ancien rédacteur adjoint de la Lettre du Continent et il est spécialiste de l'Afrique. Romain Houck vient de le joindre.
C'est surtout une région qui se trouve dans une zone grise, c'est-à-dire un triangle extrêmement dangereux où il y a beaucoup de groupes armés qui se sont réfugiés après avoir été mis sous pression par la France plus au nord, donc ils sont un peu descendus. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'on parle de gens armés en moto. Donc pour moi, c'est un mode opératoire qui est très caractéristique. Ça peut très bien être les groupes islamistes qui sévissent au Burkina, mais ça peut être aussi Boko Haram. On sait que la région n'est pas très loin du nord du Nigeria. Il y a beaucoup de touristes qui font fi des mesures de précaution et d'alerte du Quai d'Orsay. C'est une zone qui est en orange. Elle n'est pas interdite, mais en tous les cas, il y a quand même des risques énormes et il ne faut pas s'y rendre, sauf raison impérative. D'après ce que dit l'AFP, bon, ce seraient des touristes français qui seraient allés voir les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest ou qui seraient allés visiter la faune. Ça frise vraiment l'inconfiance.
Des propos recueillis par Romain Houck pour RTL.
RTL Soir, Anaïs Bouton.
À Paris et dans sa région, demain, les masques seront obligatoires dans certaines zones. Valentin Boisset, vous êtes allé dans un lieu festif de la capitale, le long du canal Saint-Martin. C'est là que se retrouvent les étudiants le soir. Et finalement, cette nouvelle contrainte est plutôt bien accueillie. On accueille Nicolas qui buvait un verre avec ses amis au bord du canal.
Tant mieux si ça peut nous permettre d'être plus safe, on va dire. Moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, je mettrai le masque la semaine prochaine. Finalement, je préfère mettre mon masque qu'aller à l'hôpital, ouais. Est-ce que c'est pas compliqué d'être en réanimation pendant quelques semaines à l'hôpital? Au final, genre, tu lèves le masque et c'est bon. Il y en a qui le font, les personnels soignants qui le font tous les jours, donc ça va. Je pourrais réussir, je pense. Juste s'asseoir ici, c'est trop cool. Donc, il n'y a pas de souci pour moi, même avec le masque. Je serai là.
Nicolas, au micro de Valentin Boisset, Canal Saint-Martin pour RTL. La canicule, les masques, la gestion des gestes barrières peuvent taper sur le système. Pour preuve, cette violente bagarre en Belgique sur la plage de Blankenberg. Caroline Haine, vous êtes en Belgique et la journée sur la plage a tourné à l'émeute.
Sur la plage bondée, des dizaines de personnes en maillot de bain affrontent les forces de l'ordre. Du sable et des parasols sont utilisés comme projectiles contre les agents de police qui répondent par du spray au poivre. Cette maman était sur place avec son fils.
Nous sommes venus seulement pour un jour avec mon fils. Il a dû se cacher pendant la bagarre. Ça fait bizarre de devoir fuir la plage et de se sentir mal après.
Tout commence lorsque la marée monte. La plage, déjà pleine à craquer, devient trop petite pour contenir tous les touristes, tout en respectant la distanciation sociale. La police demande à certains de partir, ils refusent et la bagarre démarre. Résultat, 4 policiers blessés et une vingtaine d'interpellations. La bourgmestre de Blankenberg a immédiatement réagi. Les touristes d'un jour qui n'ont pas réservé une nuit sur place ne peuvent plus venir. D'autres communes de la côte belge ont pris la même mesure. D'autres encore imposent de réserver son carré de plage avant de venir.
Merci Caroline Haine, vous êtes la correspondante de RTL en Belgique. De ce côté de la frontière, eh bien, l'île dégaine un plan d'alerte 4 pour suivre la vigilance rouge canicule. Des mesures ont donc été mises en place par la ville. Antoine Decarne, vous êtes à Lille où on tente de se rafraîchir comme on peut.
Oui, dans le parc Jean-Baptiste Lebas, on se précipite même pour être au frais.
Vite, il pleut.
De la pluie, ce serait vraiment bien, mais en fait, pas du tout. Plutôt de l'eau, des brumisateurs installés ici par la ville de Lille. Dans 7 endroits différents de la ville, on peut en profiter. Et Hugo est soulagé.
Oh ouais, c'est un petit bonheur quand ça s'allume. On a envie de rester toute la journée, quoi, en fait, hein, clairement. Hein. Moi, je pourrais rester là des heures.
Pour supporter au mieux la chaleur, les services de la mairie multiplient les initiatives. Une trentaine de fontaines d'eau ont été mises à disposition. Des bouteilles et des gourdes ont également été distribuées.
C'est une très bonne idée. C'est sympa de venir et d'avoir ça.
C'est important parce qu'on habite en appartement juste à côté. Et il fait trop chaud, on n'arrive pas. Même quand on fait un courant d'air, c'est un courant d'air chaud qui sort. Donc on est mieux dehors que dedans.
Et justement, dehors, dans le cadre du plan d'alerte, la ville de Lille demande d'éviter toute activité physique. Floriane Gabriel, c'est la directrice générale adjointe de la mairie.
On doit réduire le niveau de ces activités, faire des choses beaucoup plus douces. En rapport avec cette météo, on peut se promener, mais il faut y aller mollo.
Et surtout, s'hydrater au maximum, avec de l'eau bien sûr, pour mieux vivre cette canicule qui devrait encore durer.
Antoine Decarne à Lille pour RTL. Dans toute la France, les maires et leurs adjoints sont donc à la manœuvre pour lutter contre la pandémie notamment. Ils sont élus, ils sont aussi les élus préférés des Français. Pourtant, d'après nos confrères du JDD, les actes de violence contre eux sont en hausse constante. Philippe Bas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur républicain de la Manche et président de la commission des lois constitutionnelles au Sénat. Alors, nos confrères du JDD publient ce chiffre très inquiétant. Depuis janvier, 233 maires ou adjoints ont été agressés et c'est un phénomène qui s'aggrave. Comment expliquez-vous cette augmentation de la brutalité dans les rapports sociaux et notamment à l'égard des maires et des représentants de l'autorité de l'État ?
Vous savez, les maires, ce sont des citoyens comme les autres. Nous en avons au moins 35 000 en France qui se dévouent pour le service de la commune, mais ce sont aussi des agents de l'État. Ils sont le premier visage de l'autorité de l'État. Au fond, c'est quand l'autorité n'est pas respectée que c'est eux qui, en première ligne, prennent les coups. Ils doivent assurer la paix publique, le respect des lois, dans l'intérêt de tous. Sinon, chacun fait ce qui lui plaît au détriment des autres. Et c'est la loi de la jungle. Donc ce phénomène est constitutif d'un phénomène de société, en fait. C'est la contestation croissante de l'autorité républicaine. Nous avons fait une enquête nationale auprès de tous les maires et des adjoints aussi, qui a révélé la diversité des agressions qu'ils subissent. Ça va des insultes, des menaces ou harcèlement téléphonique, mais il y a aussi des coups et blessures.
Le président Emmanuel Macron parle d'incivilité dans la société. Est-ce que vous trouvez le mot juste ?
Bah écoutez, les incivilités, il y en a, mais c'est beaucoup plus grave que des simples incivilités. Là, on a affaire à des choses qui sont heureusement punies par le code pénal. Hein. Quand y a des actes de vandalisme contre la maison, l'automobile ou du harcèlement téléphonique chez le maire, on a affaire. Et puis alors, le pire, c'est les coups et blessures. Vous savez, il faut rappeler aussi qu'en général, ça se passe bien. Les maires sont respectés, mais il y a un phénomène qui se développe de mise en cause de leur autorité. Et nous avons fait des recommandations. J'ai écrit au Premier ministre jeudi dernier. Nos recommandations datent d'octobre. Une partie seulement a été prise en compte et nous souhaitons qu'elles soient appliquées par un vrai plan gouvernemental pour la sécurité des maires, parce que derrière la sécurité des maires, il y a tout simplement le respect de la loi pour tous les Français.
Oui, ça, vous aviez rendu ce rapport après la mort de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, dans le Var, n'est-ce pas, qui avait été renversé l'année dernière par une camionnette.
Mais oui, c'était le 5 août 2019. C'est là que nous avons fait cette enquête grandeur nature auprès de tous les élus pour prendre la mesure de l'ampleur du phénomène que vous avez décrit aussi. Et donc, nous avons fait des préconisations très fortes.
Hein. Alors, il y a deux jours, Monsieur Bas, il y a deux jours encore, par exemple, le maire de Croisy, dans le Pas-de-Calais, a été agressé alors qu'il tentait de mettre un terme à un tapage nocturne, il est tombé par terre, il a passé une partie de la soirée aux urgences, une incapacité de travail de 4 jours. Oui. On l'écoute si vous voulez bien, le maire de Croisy, Gérard Duet.
La fonction de maire n'est pas facile, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de morale. On sent une certaine haine, donc à partir de là, bah, que faire? La moindre chose, c'est les locales. C'est choquant parce que bon, cette personne, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois, mais il vous dit, bah, monsieur le maire, je fais ce que je veux. C'est des gens qui vous défient à longueur de journée.
Vous confirmez, Philippe Bas ?
Mais bien sûr, c'était le cas aussi dans la Manche, où le maire délégué de Port-Baille a été agressé par des campeurs qui faisaient du camping sauvage et auxquels il demandait de partir. En plus, il faisait un feu au pied d'une pinède. Enfin, vous voyez un peu le genre. Donc,
alors lui,
si vous
plainte avait été classée sans suite.
Oui, et la plainte a été classée sans suite. Alors, nous avons demandé que le ministre de la Justice donne des instructions. Il y en a eu le 6 novembre dernier. Ben, il faut absolument les réitérer, puis vérifier qu'elles soient appliquées. Et puis, il faut que les préfets mettent en place, dans chaque département, une plateforme pour accueillir, accompagner, soutenir systématiquement les élus.
Mais il faut aussi qu'il y a un problème avec la justice, qu'elle est trop lente ou trop laxiste?
Mais, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est que la justice considère que quand un agent public, et le maire est un agent public, est attaqué, il y a des circonstances aggravantes qui doivent être prises en compte pour que la punition, le code pénal prévoit déjà des sanctions, que la punition soit mise en œuvre. On ne peut pas accepter que ce soit classé sans suite, et ce n'est pas conforme d'ailleurs aux consignes générales qui ont été données, mais qui doivent être vérifiées et sérieusement appliquées.
Mais vous parliez du maire de Croisil, par exemple, son agresseur est sorti de garde à vue et il écope d'une sanction pénale, c'est-à-dire qu'il a reçu l'interdiction de pénétrer dans la commune de Croisil pendant 6 mois et qu'il devra faire également des travaux d'intérêt généraux.
Voilà, c'est ça, c'est une sanction proportionnée. Il faut savoir, chaque circonstance est différente, hein, mais il faut que la sanction soit proportionnée, mais certaine, qu'il y ait la tolérance zéro pour que, au fond, quand le maire fait respecter la loi ou un arrêté municipal, tout simplement, les gens sachent bien que si on n'obéit pas, eh bien là, la sanction tombera.
Merci beaucoup Philippe Bas. Je rappelle que vous êtes sénateur républicain de la Manche et président de la commission des lois constitutionnelles au Sénat.
Merci beaucoup.
RTL Soir, Anaïs Bouton.
Une fillette de 16 mois est morte aujourd'hui à Gémozac en Charente-Maritime après avoir été mordue par le pitbull de la famille. On n'en sait plus, Juliette Chaignon, sur les circonstances de ce drame.
Oui, c'est dans la soirée, peu avant 22h30, que le chien a blessé la petite fille chez son père au cours d'un dîner de famille. La victime présentait au moins une morsure. Ses parents l'ont donc conduite au centre de secours de la commune. Mais la fillette n'a pas survécu malgré l'intervention des pompiers volontaires puis du SAMU. Les parents de la fillette sont effondrés, d'après le maire de Gémozac, et les secours très éprouvés par cette intervention. La piste privilégiée pour expliquer ce drame, c'est celle d'un chien qui aurait échappé à la vigilance des parents. L'enquête a été ouverte aujourd'hui. Les gendarmes disent avoir identifié un animal de type pitbull. Ils doivent maintenant déterminer s'il s'agit d'un chien classé catégorie 1, chien d'attaque, et le cas échéant, si le père disposait bien des autorisations de détention.